Que Dieu soit béni, je ne sais pas ce que le Seigneur en réserve pour nous. Mais je suis convaincu qu'en même temps que le monde va se dégrader de plus en plus, parce que la Bible nous l'annonce, je suis convaincu que l'Église de Jésus-Christ va connaître des temps forts dans l'onction du Saint-Esprit. C'est pour ça que les mardis, nous nous efforçons d'une manière particulière, spéciale, eh bien de chercher plus que jamais la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit. Mais ce matin, j'aimerais, eh bien, avant d'ouvrir notre Assemblée Générale ordinaire, j'aimerais qu'ensemble nous puissions nous entretenir sur un thème qui nous est cher, c'est la foi. Pourquoi la foi ? Parce que nous ne sommes pas sans savoir que la foi fait partie des thèmes principaux de la vie du croyant. Quasiment, quand on feuillette la Bible, vous savez que dans la Bible, il y a 66 livres. Quand on feuillette les livres, il y a toujours une allusion à la foi dans les 66 livres, que ce soit du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai mis là sur mes notes quelques exemples. Par exemple, l'apôtre Paul qui compare la foi avec un bouclier. Et il invite les chrétiens, tels des soldats, à pouvoir s'équiper de ce bouclier afin, précise l'Éphésiens, le livre d'Éphésiens au chapitre 6, afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est aussi l'apôtre Jean qui, de son côté, rappelle aux croyants que la victoire qui triomphera de ce monde, c'est notre foi. La victoire qui va te permettre d'être plus que vainqueur face aux adversités de la vie, face aux tentations, aux séductions de ce monde, c'est ni plus ni moins notre foi. Jude aussi, de son côté, dans son livre, Jude, le frère de Jacques, invite le croyant à fonder sa vie sur sa très sainte foi. Et c'est une certitude, la foi, la foi est le fondement incontournable du croyant. Un chrétien qui n'a pas la foi, c'est juste impossible, vous êtes d'accord avec moi. C'est une aberration, c'est un non-sens. La Bible déclare que la foi est vitale pour le croyant. C'est le livre d'Hébreux, d'ailleurs, qui le rappelle. Hébreux, chapitre 10, verset 38. Ne le cherchez pas, il est très court. Et mon juste vivra par la foi. Il y a d'autres versions qui disent, mon juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Frères et sœurs, si nous désirons davantage l'approche de Dieu, et je crois que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez Dieu. Et le simple fait d'être là, c'est une manifestation de votre foi en Dieu. Mais si nous voulons davantage l'approche de Dieu, il nous faut manifester la foi. Si nous voulons être agréables à Dieu, il nous faut manifester, frères et sœurs, la foi. Et là encore, le livre d'Hébreux le confirme. Hébreux chapitre 11 et le verset 6, il nous est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il explique pourquoi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, déjà croit que Dieu existe, premièrement, et puis aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour être exaucé de nos prières, pour recevoir ses grâces, ses dons, il nous faut immanquablement la foi. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans manifester la foi. On ne peut pas venir à Dieu avec notre propre raisonnement. Car comment comprendre un Dieu qui n'a ni commencement ni fin ? Et c'est pour ça, et je trouve ça extraordinaire, Dieu a cru bon dans son infinie sagesse de mettre tous les hommes sur le même piédestal. Parce que la Bible dit que la foi a été départie dans nos cœurs, dans chacun des cœurs, même des païens, même des inconvertis. C'est juste une question d'activer ou de rester inactif, de laisser inactif cette foi au dedans de nous. Mais quand on l'a déclenché, on peut véritablement s'approcher du Dieu vivant et vrai, du Dieu d'amour qui est capable de changer les temps et les circonstances. L'importance ou la valeur de la foi dans la vie du croyant, tout cela est signalé par, entre autres, ce que dit l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 5, verset 6. Vous me connaissez, j'aime à citer certains passages. Je sais que certains prennent des notes. C'est pour que vous puissiez les relire tranquillement chez vous. Et ces paroles, c'est Dieu qui les place sur mon cœur et je crois qu'il y a comme des clés au travers des versets que nous donne la parole de Dieu. Galates chapitre 5, verset 6, la Bible dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. » Mais qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui a de la valeur en Jésus-Christ ? La foi qui est agissante par l'amour. Et on le voit bien, durant son ministère, Jésus a pris le temps avec ses disciples de pouvoir enseigner sur l'importance de la foi, sur la puissance aussi de la foi. Et on se rend compte quand on lit les quatre évangiles que Jésus prenait le temps de pouvoir mettre en évidence la foi, la grande foi qui pouvait être manifeste chez certaines personnes. Et justement, il met en valeur cette foi qui était manifeste chez des inconvertis. Il y a entre autres le centenier romain, par exemple. Et quand Jésus a entendu cette foi manifestée par les paroles de cet homme, Jésus va dire aux oreilles de tous les juifs, mais même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et aussi, pareil, une femme étrangère, à qui Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Et je prie Dieu que ce matin, le Seigneur puisse dire aussi, l'église d'Istre a une foi très grande. Amen. Nous sommes là ce matin pour cela, pour voir notre foi grandir, pour qu'elle puisse augmenter. S'il y avait un titre à donner ce message, c'est Seigneur, augmente-nous la foi. S'il fallait donner une définition de ce qu'est la foi, alors je pense que vous serez d'accord avec moi, j'opterais sur la définition que nous donne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Vous le savez, jusqu'à maintenant, on ne sait pas véritablement qui a écrit le livre d'Hébreux. Certains pensent à l'apôtre Paul. Toujours est-il, ce livre se trouve dans le canon biblique, donc ce livre est inspiré également par l'Esprit de Dieu. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 11, et juste le verset 1. Alors je vais vous lire ce verset dans la version Parole Vivante. Elle est, à mon sens, un peu plus explicite. Hébreux chapitre 11, verset 1, voilà. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et finalement, par voie de conséquence, croire en Dieu ou placer notre confiance en Dieu, c'est ni plus ni moins croire en l'existence d'un Dieu qui pourtant est invisible. Est-ce qu'on voit Dieu? Pourtant, on est sûr que Dieu est bien réel et mieux encore qu'il est devenu notre Père. Amen. C'est ça, croire en l'existence d'un Dieu, croire en ce qu'il est, et aussi croire en ce que Dieu dit et ce que Dieu promet. Une autre définition que j'aime beaucoup concernant qu'est-ce que la foi, et surtout en particulier la foi en Dieu, regardez Hébreux chapitre 11, verset 11, alors on descend 10 versets plus bas, et nous lisons, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Et la deuxième partie de ce verset dit, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Si vous cherchez une des définitions, il y en a plusieurs, de la foi, la deuxième partie de ce verset peut répondre à cela. Le fait de croire, c'est croire en Dieu, c'est croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Je crois en Dieu. Je sais que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et si nous le croyons, nous restons fermes et nous attendons à Dieu, même in extremis, il sera honoré pleinement sa parole. Alors j'ai voulu, comme cela, vous partager quelques exemples de foi remarquables dans la Bible. Et les exemples ne manquent pas. Et j'ai voulu aussi rester sur le livre d'Hébreux, parce que justement, le chapitre 11 de ce livre d'Hébreux nous énumère comme ça toute une série de personnages bibliques qui, tour à tour, ont quelque part expérimenté ou manifesté un aspect de la foi. Ça commence à partir du verset 4, par exemple, ne le cherchez pas, avec Abel, qui, à un moment donné, a manifesté cette foi qui arrive à saisir la justification, qui arrive à saisir la grâce de Dieu. La même que nous avons pu manifester pour saisir le salut que Dieu nous donne. Et puis après, il citait d'autres personnages. Et puis on en arrive, et je vous propose de lire ensemble un paragraphe de ce fameux chapitre 11 du livre d'Hébreux. On arrive au verset 32, Hébreux chapitre 11, et on va lire du verset 32 jusqu'au verset 40. Je ne serai pas trop long ce matin, et pour cause, nous avons cette assemblée générale, mais regardez déjà avec moi, Hébreux chapitre 11, verset 32 à 40. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par quoi ? La foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées entières. Des femmes recouvrèrent même leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent comme lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Quel listing, mes amis! Et on constate que là, quelque part, l'auteur a voulu, peut-être, j'ai envie de dire, séparer deux catégories de personnages bibliques qui ont expérimenté la foi. La première, c'est celle qui met en évidence le côté spectaculaire de la foi. Cette foi qui est sous les projecteurs. Cette foi qui nous permet, par exemple, de remporter des victoires, on l'a lu, fermer la gueule des lions. Ah, ça nous intéresse, ça. Guérir les malades et même voir les morts ressuscités. Et j'ai envie de dire que tout cela, c'est ni plus ni moins, si on pouvait comparer la foi à un iceberg, la partie visible de l'iceberg. La partie visible de l'iceberg de la foi. Mais voyez-vous, on l'a lu au verset 35, il nous est dit, au beau milieu de ce verset 35, d'autres furent au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Et il est énuméré une autre catégorie de frères, de sœurs, qui ont expérimenté la foi, mais sur une autre facette. J'ai envie de dire, cette fois-ci, c'est la partie cachée de l'iceberg de la foi. Et vous savez, dans la notion d'un iceberg, vous savez, c'est ce bloc de glace-là qui flotte sur l'eau, la partie visible, c'est que le 1/10 de l'ensemble du volume de l'iceberg. Donc il y a des profondeurs insoupçonnées dans la foi. La foi, ce n'est pas seulement recevoir des guérisons, des bénédictions, merci Seigneur pour cela. C'est quelquefois beaucoup plus profond que cela. C'est aussi la foi, c'est celle qui nous permet et qui nous rend capable d'endurer ou de supporter. Alors là, c'est une autre dimension. Capable de supporter la maladie quand elle est longue et quand plus personne ne vous comprend. Capable de pouvoir endurer ou supporter les adversités, les persécutions. Parce que là, excusez-moi, il faut également la foi. On l'a lu dans le texte qu'on a lu. Certains ont accepté même d'être sciés, torturés. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous savons de la persécution? Est-ce que vous savez que, et c'est l'histoire de même de la France, et également de l'histoire là-bas en Rome, à Rome, quand ils arrêtaient les Juifs et qu'ils les envoyaient dans les arènes? L'histoire nous raconte que les chrétiens chantaient des cantiques. Frères et sœurs, si on n'a pas la foi, on ne peut pas entrer dans l'arène alors que les lions sont affamés et ils ont été affamés pour la circonstance et choisir de chanter des cantiques. Ça, excusez-moi de l'expression, c'est la puissance de la foi. Notre frère, en introduction à la Sainte-Seine, a rappelé ce qu'a été les dires, les déclarations de notre ami Job qu'on retrouvera dans le ciel. Alors qu'il est là à se gratter avec un tesson parce qu'il est rongé par un ulcère malin. Alors qu'il est entouré par des personnes qui ne comprennent rien à ce qu'il vit, il choisit de regarder vers Dieu et commencer à confesser, parce que la foi, quand elle est vivante, quand elle est active, elle est capable de nous donner au milieu de l'épreuve, de continuer à confesser, alléluia, notre attachement et notre loyauté à l'égard de celui qui est fidèle. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Cette autre facette de la foi, on est d'accord, est peut-être moins populaire que la première, mais ô combien tout aussi puissante et glorieuse. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans cet auditoire qui connaît des moments difficiles. Oh, personne ne le sait, parce que même caché derrière ce masque, c'est vrai, la voix ne sort pas, mais Dieu connaît votre cœur. Dieu même connaît vos larmes. Et il sait surtout que vous manifestez la foi. Frères et sœurs, quand tout va bien, est-ce que c'est pas plus facile de manifester la foi que quand tout va mal? Et c'est souvent quand les épreuves arrivent, quand les difficultés arrivent, eh bien que le véritable croyant est révélé. Depuis plus d'un an, on passe une période avec cette histoire de masque et on a vu, malheureusement, que, de manière générale, que beaucoup de croyants n'avaient pas cette foi forte eh bien, pour continuer la marche. On y reviendra tout à l'heure. Mais comme dit la Bible, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour garder leur âme. Il nous faut, jusqu'au bout, conserver cette foi. Cette foi qui vous a permis d'accéder à ce salut. Cette foi qui vous permet de marcher, même miraculeusement, sur les eaux. Quelquefois on dit, oh Seigneur, j'aurais aimé marcher bien sur les eaux comme Pierre a marché. Mais spirituellement parlant, nous marchons sur les eaux, frère. Et je vous dis, franchement, nous marchons à contre-courant. Et plus nous avançons, nous devrons marcher à contre-courant. Et Dieu nous donne sa force, son soutien. Quand je me penche sur la question de la foi, et quand on y réfléchit bien, qu'est-ce qu'on peut dire de la foi? La foi nous permet de vivre et même d'accomplir des choses que nous n'aurions pas pu accomplir sans le concours de la foi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas, frères et sœurs? La foi nous donne la capacité de vivre l'impossible. Et je voudrais juste vous donner un exemple parmi tant d'autres. À un moment donné, Jésus qui enseigne ses disciples, et il a passé un bon bout de ses 3 ans et demi de ministère à enseigner ses disciples. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 17, versets 3 à 5, regardez cet échange qui a lieu entre Jésus et ses apôtres. Luc chapitre 17, verset 3, « Prenez garde à vous-même. » Je vous laisse un petit peu le temps de chercher. Mais ma foi, vous l'avez devant vos yeux et derrière mon dos. « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. » Verset 4. Et Jésus insiste, il dit, « Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. » Et je vois à ce moment-là le visage, et surtout les sourcils froncés des apôtres. 7 fois quand même. Verset 5, les apôtres dirent, « Ô Seigneur, mais Seigneur, augmente-nous la foi. » Et cette parole, cette prière, elle est sous-entendue de tellement de choses. Seigneur, tu nous dis des choses qu'on veut mettre en pratique, mais humainement parlant, ce sera très difficile. Seigneur, que mon frère m'offense 1 fois. Déjà, ce n'est pas normal. 2 fois. Mais 7 fois. S'il te plaît, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous voyez, juste pour imaginer que, effectivement, la foi nous permet de passer à cet autre cap. Pour vivre la parole de Dieu, si on n'a pas la foi, c'est impossible. Si on reste charnel, si on reste avec nos émotions, nos sentiments, jamais nous mettrons en pratique la parole de Dieu. Mais si par la foi, alléluia, nous saisissons les commandements de Dieu, frères et sœurs, nous allons nous-mêmes être surpris, alléluia, des attitudes et comportements que nous pourrions avoir en Jésus-Christ. Nous allons vivre l'extraordinaire. Oui, Seigneur, augmente-nous la foi. Et puis on est étonné pour la réponse du Seigneur. Allons un peu plus loin, Luc chapitre 17 et juste le verset suivant, le verset 6. Et le Seigneur dit... Mais écoutez-moi, mes amis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous savez ce que c'est qu'un grain de sénévé? C'est le petit grain de moutarde. On dit que c'est l'une des plus petites semences, si ce n'est pas la plus petite semence qui existe sur terre. C'est à peine visible. Et Jésus qui dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, par exemple, à ce sycomore, il y avait un sycomore certainement à côté, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et alors... Il vous obéirait. Et Jésus était en train d'expliquer à ses apôtres que, vous savez, en matière de foi, c'est pas tant de chercher à demander à Dieu, « Seigneur, augmente ma foi » dans le sens, « Augmente la quantité de ma foi. » Mais c'est plutôt regarder au Seigneur et dire, « Mais Seigneur, augmente la qualité de ma foi. » Parce que la foi, c'est soit on l'a ou on l'a pas. C'est soit elle est faible, par contre oui, elle peut être faible cette foi. Soit elle est faible ou soit elle est forte. Soit elle est puissante ou soit elle est atrophiée quelquefois. Soit elle est active ou inactive. Parce que même avec un petit grain de sénévé, on est capable de faire des choses miraculeuses. Il y a un autre passage dans la Bible, je crois qu'on le retrouvera tout à l'heure, où Jésus va donner un autre exemple. Il a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et va te jeter dans la mer, et cette montagne le ferait. Vous voyez, ce n'est pas une question de quantité de foi, mais plutôt de qualité. Alors mon frère, ma sœur, ta foi est-elle faible ou forte? Est-elle puissante? Où est-elle avilie? Souvent, on remarque que Jésus a fait le reproche de la médiocrité de la foi de ses disciples. Peut-être même quelquefois l'absence de leur foi. Quelquefois, on peut mettre notre foi en berne. On peut la désactiver. On peut désactiver la foi. À un moment donné, Jésus a posé la question à ses disciples, alors qu'ils étaient ballottés au beau milieu de cette tempête sur le lac de Galilée. Mais où est votre foi? Un autre endroit... Jésus va parler à ses disciples et va leur dire « gens de peu de foi ». Il va s'adresser aussi à la foule en disant « race incrédule ». Alors à cet effet, oui, ce matin, on est en droit de dire « Seigneur, augmente-nous la foi ».« Seigneur, augmente ma foi, afin que, eh bien, quand les jours mauvais arrivent, je puisse rester inébranlable. Seigneur, ce matin, augmente ma foi pour que, eh bien, je puisse voir la gloire de Dieu. » Frères et sœurs, la gloire de Dieu va venir. C'est indéniable. Vous savez, ce n'est pas le corona, ce n'est pas les adversités, c'est encore moins le diable, eh bien, qui va empêcher le Seigneur de sauver même la dernière brebis qui doit, alléluia, entrer dans la bergerie. Alors ce matin, on a besoin de dire, Seigneur, augmente ma foi pour que je sois de ceux et de celles que tu vas lever, car Dieu va lever une armée, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants même. Et je l'ai dit mardi soir pour ceux qui étaient là, même des ados vont se lever et vont vivre des choses extraordinaires. Seigneur, augmente-nous la foi pour recevoir tes grâces et tes dons. Seigneur, augmente-nous la foi pour rester fidèles, parce que nous ne nous flattons pas, frères et sœurs. Si nous sommes debout, c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu, certes, comme on l'a chanté, mais c'est parce que, eh bien, Dieu a prié pour nous, pour que notre foi ne défaille point. Oui, pour que notre foi ne défaille point. Jésus va dire à un de ses disciples, en particulier, mais aussi à ses disciples en général, « Satan vous a criblé pour vous, vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais il va rajouter, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Et je crois qu'encore aujourd'hui, Jésus intercède pour son Église. Et c'est vrai, comme on l'a entendu au travers d'un don spirituel, on n'a pas le droit de dire que le Seigneur nous a abandonnés. Mon frère, ma sœur, tu es là ce matin. C'est vrai que tu n'as pas pu chanter, tu n'as pas pu, parce que ton esprit est ailleurs, tu es là pris dans tes épreuves. Mais je peux te dire que le Seigneur continue à prier pour toi. Parce qu'il est plein d'amour, plein de bonté. Alléluia, à ton égard. Alors je voudrais terminer juste en nous posant une question très pratique. On vient de formuler la prière, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais on pourrait se poser encore cette question, mais Seigneur, finalement, comment augmenter cette foi? Parce que vous l'avez compris, prier Dieu et dire, Seigneur, augmente-nous la foi, c'est une chose, et Dieu entend cette prière, Dieu reçoit cette prière. Elle est légitime, j'ai envie de dire même d'actualité, pertinente. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a une part qui nous incombe, bien qu'elle soit infime. Mais on a quand même une part. Et j'ai voulu, eh bien, peut-être nous répondre à cette question, comment augmenter notre foi, ça me concerne aussi. Juste deux points, très rapidement. La première, il n'y a pas plus simple que cela. Mais j'ai l'impression que le Seigneur, il a tendance à nous ramener vers les choses simples. Avez-vous entendu ce que, eh bien, il me semble, Salomon a dit, Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché plein de détours. Comment on a l'art et la manière de compliquer les choses? Alors Jésus nous ramène vers des choses simples. Et souvent dans ses discours, il disait à la foule qu'il interrogeait sur pas mal de choses. Il leur posait la question, mais qu'en était-il au commencement? Donc il nous ramène toujours à ce qui est originel, à ce qui est bien simple. Parce que quand Dieu a créé, tout ce qu'il a créé était beau, simple, profond en même temps. Et une première réponse, donc comment augmenter notre foi, frères et sœurs, en lisant et en méditant la parole de Dieu. C'est un scoop ça? Faut-il faire un séminaire pour cela? En lisant et en méditant la parole de Dieu. Romains, chapitre 10, verset 17, nous donne la raison de ce premier point. La Bible est claire, l'apôtre Paul, qui lui a, la Bible nous dit, a visité même le troisième ciel. Il a reçu des révélations en direct. Il n'est pas passé par une école biblique, mais dans la présence de Dieu, Dieu lui a apporté des révélations. Il déclare que la foi, puisqu'il est question du thème de la foi ce matin, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce matin, potentiellement, nous avons tous la possibilité d'augmenter notre foi au travers de l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, prenez garde de la manière d'écouter. Prenez garde de la manière d'écouter. Mais je voudrais dire, potentiellement, chaque jour, nous avons la possibilité de voir notre foi augmenter. Eh bien, on nous met en contact avec la parole de Dieu. Et pas seulement la lire, mais plonger nos regards dans la parole de Dieu, afin que cette parole puisse fortifier, puisse susciter cette foi, puisse réellement l'activer et la rendre intense, la rendre puissante. La foi puise sa source dans la parole de Dieu. Et si nous voulons croître dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Et je m'adresse là peut-être aux nouveaux baptisés, je m'adresse eh bien, aux nouveaux convertis, aux jeunes convertis. Dévorez la parole de Dieu. Ne vous contentez même pas des rencontres hebdomadaires. Je veux dire, quand on se rencontre, c'est pour voir, eh bien, louer, adorer le Seigneur avant toute chose. Bien sûr, pour nous édifier dans la foi, mais je veux dire que l'entretien de notre foi, voir notre foi augmenter, c'est chaque jour, au travers de cet aliment spirituel qui est la parole de Dieu, qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Trop de croyants font naufrage au niveau de leur foi parce qu'ils ne se sont pas souciés de nourrir leur corps, leur cœur, leur esprit, leur être tout entier de la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La force de notre foi repose sur notre connaissance de qui est Dieu, mais la connaissance aussi de Jésus-Christ. Or, cette connaissance, eh bien, on a besoin de la retrouver, de la découvrir, d'en recevoir des révélations au travers de la lecture de la parole de Dieu. Et on ne fera pas de sondage ce matin. Mais on constate, et c'est pas moi qui, c'est un constat, il y a eu des statistiques même sur les États-Unis, même dans les pays européens, les gens lisent de moins en moins la parole de Dieu. Et on se contente de ces petits 5 minutes de lecture, etc., mais on ne plonge pas nos regards, et on ne laisse pas finalement cette parole venir nous imprégner et fortifier notre foi. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 2, 1 Pierre 2, 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Permettez-moi de répéter cette phrase. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Tu veux être fort. Tu veux être une bénédiction dans ta génération. Tu veux continuer à bien servir ton Dieu dans ce monde de ténèbres. Alors nourris-toi de la parole de Dieu, parce que Jésus va toujours confirmer sa parole. Le Saint-Esprit va accompagner la parole qui sortira de notre bouche. Mais avant qu'elle puisse sortir de notre bouche, il faut que cette parole, eh bien, nous puissions eh bien, l'imprégner au plus profond de nos cœurs. Je pense que c'est comme ça que nous pouvons augmenter notre foi, premièrement en lisant et méditant la parole. Juste se poser la question, après tant d'années de marche avec le Seigneur, est-ce que j'ai au moins lu la Bible entièrement? Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on peut eh bien, peut-être s'alimenter avec toutes sortes de choses qu'on peut donc retrouver sur Internet ou autre, par les réseaux sociaux. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas contre. Mais si faire ces choses au point de négliger ce tête-à-tête, cette rencontre, vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il n'y a aucun intermédiaire entre nous et la parole. Il n'y a qu'un seul pédagogue, le Saint-Esprit derrière nous et dans notre cœur et qui nous révèle, qui nous parle directement. On a besoin de revenir à la parole de Dieu et redécouvrir des promesses qui vont vous permettre. Il y a eu des moments où, effectivement, lorsqu'on lit eh bien, un passage, le passage qu'on a lu, aussi court soit-il, on le retrouve dans notre journée. Parce que Dieu, dans sa providence, savait déjà ce qu'on allait affronter. Et il veut qu'on soit armé. C'est pas pour rien qu'il ait parlé de l'épée de l'esprit. Alors il est parlé tout à l'heure du bouclier de la foi, oui, mais l'épée de l'esprit. Et nous, chrétiens, après avoir passé par le baptême, finissent par être des chrétiens languissants, affaiblis, le moindre souffle, la moindre tempête, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, parce qu'ils n'ont pas su affermir les bases de leur vie chrétienne. Et on affermit les bases de notre vie chrétienne en connaissant le livre des livres, le livre que le diable redoute, le livre que le diable, excusez-moi, au risque de choquer quelqu'un, le livre que le diable connaît par cœur, pour subtilement venir nous troubler ou amener la confusion. C'est ce qu'il a fait au début. Et il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit ? Il a même osé devant le Fils de Dieu dire, il est écrit. Et il a cité le psaume 91 entre-temps. Frères et sœurs, pour venir avec assurance devant le diable et devant la puissance des ténèbres, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous partons déjà dans la défaite. Et là aussi, ce n'est pas une question de taille, parce que Goliath avait près de 3 mètres de hauteur, mais il y avait un petit jeune homme qui lui serrait la parole de Dieu dans son cœur, le jeune David. Et juste avec une petite pierre, il a terrassé ce bonhomme et l'a rallongé, d'ailleurs d'une tête. Premier point, en lisant et méditant la parole. Qu'est-ce que sais-tu de la parole de Dieu ? Il y en a, ils arrivent à connaître par cœur plusieurs cartes. Cartes pour de retrait, tout ça. Les chiffres par cœur, ils connaissent plein de choses. Mais combien de versets tu connais par cœur ? C'est pas une compétition, c'est pas... Je voudrais que le Seigneur nous interpelle, peut-être même nous secoue ce matin. Parce que les temps deviendront de plus en plus difficiles. Et si nous n'avons pas la révélation de la parole, le discernement, nous ne tiendrons pas. Vous savez, on parle souvent de vagues. Première vague du coronavirus, deuxième, troisième. Il y a aussi des vagues spirituelles qui viennent sur ce monde. Et si on ne sait pas nager spirituellement, si on n'est pas si dans la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est une question de temps, on ne tiendra pas. Mais si je suis fondé sur ma très sainte foi, qui elle-même repose sur les dires de la parole de Dieu, les paroles de Jésus, alors je suis inébranlable. Je termine. Comment augmenter notre foi ? On vient de le voir en lisant et méditant la parole de Dieu. Je termine. Je crois aussi que notre foi va augmenter en force, en puissance, en intensité, lorsque nous déciderons de faire agir notre foi. J'ai entendu qu'un amen, c'est Serge. La foi, de l'avoir, c'est une chose. Mais la mettre en action, c'en est une autre. Vous êtes d'accord ou pas ? Je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde entier, potentiellement, a au-dedans de lui la foi. Sauf que, quand on ne connaît pas Dieu, elle est inactive. Mais cette foi, quand on fait ce pas de foi, quand on, par exemple, on s'approche de Dieu, quand on ouvre la bouche, on prie, cette foi, on l'active. On met notre foi en action. Notre foi doit être mise en action, soit par notre bouche, par la confession, par la proclamation. Alors ça dépend aussi de ce qui sort de notre bouche. Il y en a qui proclament que le négatif. Oh, je suis nul. Oh, la semaine qui arrive, ils prophétisent déjà. La semaine qui arrive, ce sera catastrophique. Oh non. Pourquoi tu ne proclamerais pas les promesses que Dieu t'a laissées ? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit aussi, Deutéronome 28, je ferai de toi la tête et non la queue. Qu'a-t-il dit ? Il y a tellement de choses. Et la Bible dit, le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que le Seigneur Jésus a dit. Et on a besoin encore et encore de laisser le Saint-Esprit nous imprégner de cette parole. C'est pour ça qu'on le recherche mardi après mardi. Je bénis le Seigneur, mardi dernier, on était 47 frères et sœurs ici en ce lieu. Mais je me moque du nombre. On serait deux, frères et sœurs. Si de tout notre cœur on cherche Dieu, Dieu va remplir nos cœurs pour avoir la vraie vision à lieu des choses, pour avancer et avancer et avancer. Par notre bouche, nous pouvons mettre notre foi en action, par nos actions, par nos choix, par nos attitudes. En fait, la foi est semblable à un muscle. Un muscle qui a besoin d'être travaillé, exercé. Je peux montrer des gros biceps, mais si je ne m'exerce pas aux pompes, quand j'aurai fait deux pompes, je serai déjà fatigué. Mais à force de m'exercer, le muscle va être exercé. Et après, je pourrai en faire 100, même en sifflant. Et c'est pareil sur le plan spirituel. Travailler ma foi par la prière. Toutes les fois où j'ouvre la bouche, j'ai dit tout à l'heure, le simple fait de venir, c'est un acte de foi que vous avez posé. Et c'est ce qui vous différencie peut-être de la personne qui a la possibilité de faire cet acte de foi et qui ne le fait pas. La question de la foi, de mettre sa foi en action, c'est une question de choix. Et la vie de l'être humain, c'est une question de choix. Tout est une question de choix. À part peut-être notre naissance et notre mort, tout le reste est une question de choix. Et je choisis, nous avons un jour choisi de faire confiance en ce Dieu qui nous transcendait, qui nous dépassait. Le faire le choix d'ouvrir la bouche et de prier, le choix de pouvoir le suivre, le choix de pouvoir passer par les eaux du baptême, le choix de pouvoir venir, le choix de pouvoir venir malgré les masques. Et tout ça, c'est des actes de foi, la méditation et la pratique de la parole. Le fait, donc j'ai dit, de venir, oui, eh bien dans la maison de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Un verset que j'aime beaucoup. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai dit, mais il y a quelque chose là. C'est l'apôtre Paul encore qui parle. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi, et je prie Dieu qu'il y ait un esprit de foi qui s'empare de nous. Si nous voulons voir des miracles, des prodiges parmi nous, il faut qu'il y ait cet esprit de foi qui nous anime, frères et sœurs. Nous croyons. Pas commencer à dire, et si ça ne marche pas? Et si ça... Chassons ces doutes et croyons. Un esprit de foi qui est exprimé d'ailleurs dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il y a une relation de cause à effet. Parce que j'ai la foi, alors cette foi, je la mets en action. Et comment je le fais? Je le fais en parlant, en proclamant, en confessant. Et il rajoute, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Mon frère, ma sœur, ce matin, il nous faut ouvrir la bouche. Et c'est paradoxal. Comment le faire avec des masques? Mais c'est tout à fait possible. Amen. J'ai entendu des prières excellentes ce matin, des dons spirituels. Par la foi, on est capable de pouvoir transcender même les épreuves, les difficultés, les adversités qui pourraient se placer devant nous. Notre foi doit toujours engendrer des actions ou des réactions de notre part. Et ces actions ou ces réactions vont non seulement développer notre foi, mais aussi la rendre efficace et puissante. Alors que dire en conclusion? Nous n'aurons jamais de cesse de rappeler l'importance de la foi dans la vie du croyant. Elle est quasi omniprésente. La foi nous permet de recevoir de Dieu ses dons et ses grâces. Et toi qui désires être baptisé dans le Saint-Esprit, crois-le de tout ton cœur. La Bible nous a laissé des promesses dans le livre des Actes des Apôtres. Il a dit, cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Donc cette promesse, elle est pour toi. Crois-le. La foi est aussi capable de nous faire expérimenter l'impossible, je l'ai dit. Et justement, Jésus a dit à ses disciples, ne le cherchez pas. Matthieu chapitre 17, verset 20, la deuxième partie de ce verset, il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. On retrouve notre fameux grain de moutarde. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et il rajoute, et c'est ça qui est puissant, et qui nous montre que la foi que Dieu a placée dans notre cœur, qui met à notre disposition, est puissante. Rien ne vous serait impossible. On pourrait le répéter ensemble? Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. C'est pourquoi ce matin, on a besoin de demander au Seigneur qu'il augmente notre foi. Pas forcément en quantité, mais on l'a compris, en qualité. Une foi beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, beaucoup plus puissante. Et à cet effet, Paul nous rappelle qu'on peut bien contribuer à ce que notre foi soit augmentée bien en lisant, en méditant la parole de Dieu. Et puis aussi, notre foi, bien sûr, se développera en qualité et en puissance si nous la manifestons à travers d'actes concrets. Et j'ai parlé d'attitude. La foi, elle peut être manifeste par une attitude. Job a eu une attitude dans son épreuve et qui lui a permis par la suite de recevoir le double de tout ce qu'il avait perdu. Moi, j'ai vu des personnes, et je vous ai déjà parlé d'une femme qui était là à l'article de la mort. Et quand on allait la voir pour l'encourager, frères et sœurs, c'est elle qui nous encourageait, émue. Et quand elle allait faire sa chimio, etc., c'est elle qui parlait du Seigneur, une personne déjà bien avancée. Mais il y avait cette sérénité, même le corps médical, même les infirmières disaient, mais cette femme, elle rayonne de cette paix. Elle a manifesté la paix, pourquoi? Parce que, elle était remplie de l'esprit, de cet esprit de foi. Elle a mis sa foi en action. Et certainement, elle connaissait qui était son Dieu. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il voit cette église d'Istre grandir dans la foi et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, et on termine par ce verset, et puis après nous prierons. 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Pourquoi ? Eh bien parce que votre foi fait de grands progrès. Et que l'amour, et je précise l'amour de Dieu, de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Que ces deux éléments puissent grandir parmi nous, l'amour. Parce que de toute façon, on l'a lu tout à l'heure, la foi est agissante par l'amour. Donc c'est intimement lié. La seule chose qui les différencie, les deux, c'est qu'à un moment donné, quand Christ reviendra, la foi sera terminée. Parce qu'il n'y aura plus besoin de croire, puisqu'on verra Jésus. Par contre, l'amour perdurera. Que Dieu nous fasse comprendre ces choses et que Dieu nous donne à pouvoir vivre ces choses. Frères et sœurs, oui, notre cri encore ce matin aux oreilles du Seigneur. Seigneur, augmente-nous la foi, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Et qui est juste, qui est parfait, qui est arrivé. Seigneur, c'est ta grâce qui nous tient. Nous l'avons chanté. Mais Seigneur, mon Dieu, par la foi, tu nous aides à marcher comme Enoch a marché 300 ans. Et puis parce qu'il t'a plu, il t'a été agréable, tu l'as pris, tu l'as ravi. Un jour, nous partirons. Et ton heure, alléluia, sera la nôtre. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes à toi. Et Seigneur Père, nous sommes les plus heureux des hommes parce que le meilleur est encore à venir. Mais chaque jour qui passe, nous te demandons, Seigneur, que cette foi puisse grandir, puisse, Seigneur, augmenter, Seigneur, en qualité, en intensité. Que notre foi soit manifeste, que ce ne soit pas que des paroles, mais que, Seigneur, cette foi soit traduite par des actions, par des faits. Et que, Seigneur, en retour, ta gloire soit manifeste parmi nous, qu'il y ait des miracles, des guérisons, qui est, Seigneur Père, la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste parmi nous par des dons spirituels, qu'il y ait, Seigneur Père, ce réveil, un Seigneur qui va non seulement braser nos cœurs, mais en retour, Seigneur Père, mon Dieu, tu nous permettras d'embraser à notre tour tous ceux et celles qui seront à notre contact. Nous voudrions te prier, Seigneur, pour que tu augmentes cet esprit de foi, que tu augmentes cette foi dans notre cœur afin que nous puissions, Seigneur Père, mon Dieu, t'apporter davantage, Seigneur, cette ville d'Istre, avec tous ces banlieues. Seigneur, nous voudrions, Seigneur, le salut, Seigneur, de tous les Istriens, les Istriennes, au nom de Jésus-Christ. Et je le déclare, Seigneur, l'église d'Istre restera debout, Seigneur, jusqu'à ton prochain retour. Seigneur, qu'il y ait toujours des âmes qui passent de la mort à la vie. Je le déclare, Seigneur, mon Dieu, qu'il y ait des miracles et des guérisons parmi nous. Qu'il y ait ta gloire qui soit manifeste. Réveille les cœurs. Seigneur Père, réveille-nous au nom de Jésus-Christ. Et donne-nous aller de l'avant, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Amen et Amen. Merci, Seigneur.